King Nomad. Bonjour, je m'appelle Claude Lacharité et bienvenue à l'émission « Sous l'influence des livres », le volet rimousquois de Parking Nomade, enregistré à l'Université du Québec à Rimouski. Ce mois-ci à l'émission, nous recevons comme invité Louis Hébert, auteur de « La sagesse du loup », poème d'un seul vers, publié en 2013 aux éditions d'art Le Sabor. Pour la capsule littéraire, Marie-Lise Lacquer viendra nous parler d'un professeur du 19e siècle, Joseph Sabin-Raymond, auteur des entretiens sur l'éloquence et la littérature. Dans un troisième et dernier temps, nous retrouverons Louis Hébert qui nous dévoilera un aspect méconnu de sa bibliothèque. Les extraits que nous entendrons tout au long de cette émission sont bien sûr tirés du recueil de Louis Hébert, « Sagesse du loup ».
Toute sa vie, il voulut réaliser son rêve sans savoir que toute sa vie n'était qu'un rêve réalisé. La vie est un rêve, mais qui les confond est un fou.
Alors nous accueillons à l'émission ce mois-ci Louis Hébert qui vient de faire paraître un recueil de poèmes intitulé « La sagesse du loup » aux éditions d'art Le Sabor. Alors bienvenue à l'émission Louis.
Merci.
Alors est-ce que vous pourriez en quelques mots nous expliquer finalement comment ce projet est né et comment l'idée d'écrire cette sagesse du loup vous est venue?
Oui, c'est un projet qui a commencé il y a 15 ans. J'ai commencé à écrire des petites lignes de « sagesse », entre guillemets, m'inspirant des lectures bouddhistes que je faisais à l'époque. Et je me suis dit que je pourrais peut-être faire une œuvre littéraire avec ça, mais je voulais que ce soit donc assez original. Alors je me suis dit, je ne vais pas écrire une sagesse, j'ai pas tant de sagesse que ça, et ça ne sera pas intéressant, et ça va être un énième livre de sagesse. Donc j'ai essayé de faire un livre qui marie écriture traditionnelle de sagesse et une réflexion un peu plus littéraire. C'est pourquoi la sagesse est des fois un petit peu paradoxale, un peu contradictoire, un peu incompréhensible, etc. Et j'ai produit environ 1000 aphorismes, c'est des vers d'une ligne, et des vers d'une ligne nécessairement, des poèmes d'une ligne, et j'en ai sélectionné 400 que j'ai réécrit pendant des années et des années et des années, j'en ai supprimé, et là, dans le livre, on en a retenu, je crois, 250 ou 300 environ.
D'accord, donc à peu près le quart d'une des versions de travail du recueil initial.
Oui, je pense qu'une des opérations les plus importantes pour un écrivain, c'est la rature, et donc jeter le matériel qui n'est pas complètement satisfaisant et conserver ce qui a un potentiel et l'amener à son plein potentiel. Et c'est difficile parce qu'on ne sait pas toujours quand le plein potentiel est atteint ou quand on a surécrit, trop écrit son texte, même des fois, ça peut arriver.
D'accord. Et donc, vous avez précisé finalement la contrainte que vous vous êtes imposée, celle d'écrire des poèmes d'un vers.
Ouais.
Vous avez d'ailleurs un très beau vers qui ouvre le recueil, « La souffrance de mon vers solitaire et la mienne ». D'où vous vient ce goût justement pour le vers solitaire, si j'ose dire?
C'est que j'aime beaucoup les écritures minimalistes, les écritures fragmentaires. Puis comme j'ai une vie familiale et professionnelle très remplie, l'écriture fragmentaire me convient parfaitement bien parce que j'ai pas beaucoup de temps continu pour l'écriture. Donc, une petite idée qui me vient. Parfois même, j'ai des vers qui me sont venus la nuit. Je me suis réveillé, j'avais une idée de vers. Et donc, un attrait pour le minimalisme et en même temps aussi des contraintes professionnelles et personnelles qui m'ont amené à cette idée-là. Donc, j'ai décidé d'accepter cette contrainte. Contrainte-là et de la réduire. Au début, c'était un vers d'une ligne, mais là, pour des raisons typographiques, des fois, la ligne dépassait un peu, donc selon le cadrage, selon le format du livre, c'est un format de livre tout petit, donc j'ai essayé de transformer ça plutôt en contrainte de un vers. Ça veut donc dire que parfois, le vers déborde sur une deuxième ligne, mais en principe, c'est un seul vers, même si des fois, c'est un petit peu long. Là, la contrainte, il faut savoir la respecter, mais en même temps, quand l'inspiration, le contenu est plus important, il faut savoir aussi ne pas respecter la contrainte complètement.
D'accord. Donc, au 17e siècle, vous auriez fait comme La Rochefoucauld en écrivant des maximes.
Oui, j'aime beaucoup La Rochefoucauld, La Bruyère, des gens qui écrivaient dans des formes brèves, et en particulier La Rochefoucauld parce que c'est extrêmement bref, c'est souvent une seule phrase. Oui, effectivement.
qui a un contenu sapientiel, moral, oui, très fort, oui, comme dans vos textes, justement. D'autre part, c'est un livre d'art, hein, c'est publié donc aux éditions d'Art, Le Sabord, et donc il y a une riche iconographie qui accompagne vos textes. Qu'est-ce que cette dimension visuelle ajoute à votre livre?
Ben, moi, je suis très content. J'ai soumis mon manuscrit à cet éditeur-là, et je ne savais pas que ça allait aboutir en un livre où les œuvres d'art allaient se marier avec le texte littéraire. Je suis très content parce que, notamment, un de mes projets de recherche, c'est d'étudier Magritte, qui est un peintre qui s'est intéressé énormément aux mots, qui en a intégré dans sa peinture. Et donc, moi aussi, je m'intéressais aux œuvres d'art et à la littérature, évidemment. Et donc, je suis très content de ce produit-là, si on peut dire, de cet objet. C'est plutôt un objet d'art. Et je trouve que ça ajoute... Je trouve que les œuvres vont à peu près dans le même sens que mes poèmes. C'est-à-dire, on sent un peu la solitude des personnages, puisque le loup est seul, la moufette qu'on voit est seule, le lapin, l'ours, l'oiseau. Il y a une certaine solitude. On voit la forêt. J'aime bien ça. Et en même temps, les animaux sont des animaux avec des pièces métalliques, qui sont des pièces que j'ai appris que c'était des pièces obtenues par recyclage. Donc, c'est intéressant aussi au point de vue naturel. Donc, c'est un mélange d'animal et de naturel et d'artificiel. Donc, je trouve ça intéressant, ce contraste-là. Et c'est un peu étrange, un peu, à la limite, inquiétant, en tout cas onirique. Et je trouve que ça va bien avec le contenu, parce que j'ai plusieurs poèmes un peu bizarres ou oniriques. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'est inquiétant, mais en tout cas étrange, oui, ça, oui.
À la frontière de tout ça. Oui. Hein, les œuvres sont en fait des œuvres d'Annie Pelletier, qui est originaire d'Asbestos dans les cantons de l'Est. Est-ce que vous avez travaillé de concert avec elle?
Non, j'ai soumis le manuscrit, l'éditeur l'a accepté et l'éditeur est parti à la recherche d'une artiste qui pourrait produire une œuvre qui se marierait bien avec le texte. Et elle a lu le texte, évidemment, elle s'en est inspirée, elle a fait ses créations et j'en suis très content. Je suis content aussi du fait que ce soit des sculptures. Ce sont des sculptures qui ont été photographiées et intégrées dans l'œuvre d'art. Je trouve que ça fait vraiment multimédial, intermédial, puisqu'on a de la sculpture photographiée dans un livre avec du texte littéraire. J'aime beaucoup ça. Si ça avait été des œuvres uniquement graphiques, peut-être j'aurais trouvé qu'il y aurait moins eu de profondeur dans le transfert entre les médias. Là, je suis très content de ce travail-là.
D'accord. Et vous avez découvert les œuvres visuelles sur épreuve ou, oui, dans la version finale quand vous avez reçu?
Dans la version finale, sur les épreuves finales pour lesquelles je ne pouvais que modifier des fautes qu'il y aurait eu dans la transcription.
Ah, c'est intéressant, ça. C'est un beau projet. Hein? L'auteur est un petit peu surpris
oui, exactement.
Par son propre
livre. J'ai été agréablement surpris, comme je l'ai dit à l'artiste. Je trouve que vos œuvres sont magnifiques et je suis très heureux de ce que vous avez fait.
Parfait. Et en conclusion, donc, vous avez choisi un animal inquiétant, étrange, le loup, et vous avez choisi de personnifier votre sagesse avec cette figure de loup, qui est évidemment un animal un peu plus curieux, qui suscite souvent la méfiance, sinon l'hostilité. Pourquoi le loup est-il sage? Est-ce que le loup est vraiment sage?
Bien, le loup, c'est une figure ambiguë parce que, d'une part, il a un aspect évidemment violent. Il doit manger pour vivre, alors que nous, on n'est pas obligé de tuer pour vivre. Mais en même temps, il s'occupe de ses louveteaux, il a une compagne pour la vie, il a une vie sociale très développée, où l'entraide est importante. Donc, j'aimais cette dimension ambiguë du loup. Et le loup, c'est un peu le meilleur ennemi de l'homme. Hein? Mmh. C'est donc comme le chien, le meilleur ami de l'homme. Et tous les deux ont la même origine, puisque le chien est un loup domestiqué. Donc, je trouvais que tous ces éléments-là étaient intéressants. J'aurais pu choisir la sagesse de la moufette, mais je pense que ça aurait peut-être moins porté à créer l'adhésion. Mais je trouve que le loup est un être fascinant.
Tout à fait. Et ça produit, hein, des effets de lecture assez intéressants, de renversement notamment, en nous obligeant à nous mettre dans le point de vue du loup. Il y a notamment donc une formule qui me revient à l'esprit, c'est celle qui dit que finalement l'homme est un loup pour l'homme. Ça, c'est évidemment le passage que tout le monde connaît, qu'on trouve dans les Léviathans de Hobbes. Et vous renversez évidemment la formule en disant que évidemment l'homme est un loup, c'est-à-dire le loup est un... Nom pour le loup.
Exactement.
Voilà,
j'y
suis arrivé. Merci beaucoup, Louis Hébert.
Merci, Claude.
Alors, pour notre segment d'histoire littéraire, je m'entretiens avec Marie-Lise Lacaire, qui a publié l'édition critique des Entretiens sur l'éloquence et la littérature de Joseph Sabin-Raymond aux presses de l'Université Laval l'an dernier, en 2012. Alors, Madame Lacaire, bienvenue à notre émission.
Merci.
Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, simplement nous rappeler qui est Joseph Sabin-Raymond?
Oui, Joseph Sabin-Raymond est un abbé séculier qui a étudié et enseigné au séminaire de Saint-Hyacinthe au 19e siècle. Et par les différentes fonctions, ces différentes fonctions, dont supérieur de l'école d'enseignement, le séminaire de Saint-Hyacinthe, il a joué un rôle important dans l'établissement du cursus scolaire. On peut dire de lui qu'il a été de tous les combats. Si on parle du passage d'une église militante à une église triomphante, ayant enseigné des années 1830, pratiquement jusqu'à la fin de sa vie, donc au moment où il est décédé en 1887.
Donc, une très longue carrière de pédagogue au cours d'un siècle qui a connu de très, très nombreuses métamorphoses là, dans l'histoire du Québec, l'histoire littéraire, l'histoire culturelle. En quoi ce texte que vous avez choisi donc d'éditer avec Marc-André Bernier est-il éclairant sur cette métamorphose justement que connaît le Québec à l'époque?
Bien, le manuscrit avait d'abord attiré notre attention en ce sens qu'il avait été écrit par un tout jeune homme. Hein. Il avait à peine 23 ans au moment où il écrit ses entretiens. Et la maturité de sa réflexion nous a étonnés. Avec les recherches, nous avons découvert que l'abbé Raymond s'était inspiré en fait de nombreuses sources. Mais ce que cela a également mis en lumière, c'est l'importance des transferts culturels entre l'Europe et en plus grande partie la France dans ce cas. La pensée de Raymond reflétait très exactement les grands enjeux dont on débattait en France en ce moment. Et à ce titre, les entretiens sur l'éloquence et la littérature devenaient très importants dans ce regard qu'on pouvait jeter sur le Québec du moment.
Alors, c'est un texte qui a été écrit dans les années 1830, à une époque donc où le romantisme commence à s'imposer en France. Est-ce qu'on peut percevoir l'influence justement du romantisme dans ces entretiens sur l'éloquence et la littérature de Sabin-Raymond?
Ah oui, d'autant plus que au moment où Joseph Sabin-Raymond écrit ses entretiens, il correspond entre autres avec Chateaubriand. Puis il va lui écrire à quel point le génie du christianisme a influencé sa vie et sa pensée, à quel point aussi il s'est impliqué dans l'enseignement du génie du christianisme dans la littérature du collège. Et dans le sillage de Chateaubriand, il a tenté de trouver une apologétique moderne au catholicisme et ce qui l'amène vers une esthétique dans laquelle on va rejeter les règles du classicisme au nom de l'expression des grandes émotions du cœur. En ce sens, on va retrouver le poète, comme le conçoit Chateaubriand, mais également Joseph Sabin-Raymond, comme le prophète. Le poète inspiré, guidé par les vérités qui lui sont révélées et qui laisse libre cours aux grandes rêveries du cœur. Et ça, dans un romantisme qui célèbre toujours, par contre, la vérité de la religion.
D'accord. Et est-ce qu'on peut vous demander pourquoi ce texte-là n'a jamais été publié? Parce que c'est donc un inédit que vous avez édité à partir d'un manuscrit, si j'ai bien compris.
Il y a quand même quelques articles qui font état de ce texte, mais c'est un texte extrêmement difficile à transcrire. L'écriture de Joseph Sabin-Raymond est particulièrement difficile à décoder, ce qui a pris quand même quelques années et une bonne équipe de chercheurs pour revoir, relire et comparer les différentes mises au point du texte pour arriver à l'édition critique qu'on a fini par publier. Mais c'était l'écriture de Joseph Sabin-Raymond est un défi aux chercheurs.
En soi. Et est-ce que le contenu lui-même du texte, par exemple les références à Lamennais, ont quelque chose à voir avec le fait que l'auteur a peut-être décidé de ne pas publier le texte de son vivant?
Ah oui, absolument. Le collège de Saint-Hyacinthe était véritablement un collège menaisien et Joseph Sabin-Raymond défend dans les entretiens sur l'éloquence et la littérature les thèses menaisiennes, entre autres sur le sens commun. Et au moment où le texte a été écrit, ce qui nous a permis d'ailleurs de situer la date parce que le texte n'avait pas de date précise. Et ça a été un très bon indice pour nous. Et donc, au moment où l'encyclique Singularinos arrive de Rome, les paroles des croyants de Lamennais sont condamnées. À ce moment-là, Monseigneur Lartigue va interdire de professer désormais les thèses de Lamennais, ce qui a amené Sabin-Raymond à mettre de côté ce texte dans lequel il défendait largement les thèses de Lamennais.
D'accord, très bien. Et puis si vous aviez donc, à nous parler un petit peu de Joseph Sabin-Raymond, au-delà des entretiens sur l'éloquence et la littérature, est-ce qu'il y a d'autres textes aussi intéressants que celui que vous venez de publier?
Bien, le fonds d'archives de Joseph Sabin-Raymond est extrêmement riche, mais dans l'ensemble, nombre des textes qui s'y trouvent découlent des entretiens sur l'éloquence et la littérature. Bon, il a écrit énormément de discours, de conférences qui ont été publiés dans diverses revues ou journaux, mais je dirais que l'un des textes qui, ma foi, nécessiterait, serait peut-être, mériterait enfin peut-être... l'effort d'aller vers une édition critique aussi poussée que les entretiens sur l'éloquence et littérature est un texte qu'il a intitulé « Entretien sur les lettres classiques » qui, à mon sens, est tout à fait intéressant et qui pourrait peut-être mériter qu'on se penche encore sur l'écriture, quoique le texte a été publié, mais d'en faire une édition critique valable, je pense que ça pourrait être une richesse pour les littéraires et pour les historiens qui s'intéressent sur cette période particulière du Québec.
Très bien. Mais je vous remercie infiniment. Vous nous donnez le goût de découvrir ce que pouvait penser et écrire un professeur de littérature au 19e siècle au Québec, un contemporain de Chateaubriand, marqué comme Chateaubriand par la volonté de restaurer le catholicisme et en même temps de fonder une nouvelle littérature qui rompe avec la littérature classique du 18e siècle. Merci beaucoup, Mme Lacaire.
Merci à vous de m'avoir accueilli.
Alors, nous sommes de retour avec Louis Hébert. Louis Hébert, donc, vous vous êtes fixé comme contrainte dans la rédaction de votre recueil « La sagesse du loup », la rédaction, donc, de poèmes d'un vers. D'entrée de jeu, vous nous dites « un haïku, deux vers de trop ». Vous me voyez venir avec ma prochaine question. Est-ce que vous êtes un grand lecteur de haïku?
Bien évidemment, c'est une petite pointe que je lance au haïku, mais en tout respect pour le haïku, qui est une forme extraordinaire, évidemment. Je suis pas un grand lecteur de haïku, mais j'en ai lu quelques-uns, et ce qui m'intéresse, en fait, c'est la littérature bouddhiste, et le haïku est évidemment imprégné de littérature bouddhiste, en tout cas le haïku traditionnel, peut-être plus le haïku contemporain. Donc oui, je me suis inspiré des haïkus, mais je les ai aussi transformés, pervertis. Je me suis inspiré aussi des koans, vous savez, ces énoncés un peu déstabilisants dans le bouddhisme zen. Alors j'en ai pris quelques-uns, je les ai transformés, j'ai fait des faux koans, des pseudo-koans, des anti-koans. Donc, j'ai travaillé un petit peu la littérature bouddhiste et aussi la littérature tibétaine, pas seulement le bouddhisme zen, mais le bouddhisme tibétain.
D'accord. Et donc, vous n'êtes pas simplement un écrivain, vous êtes aussi un chercheur. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur la sémiotique et vous arrivez à combiner des choses étonnantes, entre autres, donc, votre goût pour le bouddhisme, d'une part, qui est évidemment, qui transparaît clairement dans votre recueil, et d'autre part, donc, cette spécialité qui est la vôtre, la sémiotique. Vous avez dirigé tout un numéro de revue savante, la revue Protée, sur sémiotique et bouddhisme. Qu'est-ce que ça donne quand on mélange les deux?
Alors, qu'est-ce que ça mange en hiver? La sémiotique, c'est l'étude des signes. Donc, toutes les religions s'intéressent aux signes parce qu'elles s'intéressent au rapport entre le mot, les choses, les pensées. Donc, toutes les religions se sont posées des questions sur les signes, notamment sur la manière d'interpréter les textes sacrés, sur les différents sens possibles. Donc, il y a plus de liens qu'il pourrait paraître y en avoir à l'origine. Donc, c'est un petit peu ça que j'ai voulu fouiller dans le bouddhisme. Moi, j'ai étudié en particulier l'iconographie du bouddhisme tibétain pour essayer de dégager des constantes, des opérations de transformation quand on représente une divinité avec 1000 bras, avec 2 bras, avec 4 bras, avec 3 têtes, 2 têtes, etc. Donc, j'ai essayé d'étudier un peu ça et j'avais des collaborateurs avec moi qui ont étudié d'autres éléments qui combine l'étude des signes puis le bouddhisme.
Mm-hmm. Et donc, évidemment, je dirais la sémiotique propose une théorie générale du signe qui s'applique à toute forme de, non seulement de texte, mais même d'objets, de symboles, de signes. Et c'est pas quelque chose qui est ancré, par exemple, dans la culture occidentale. Donc, ça s'applique aussi bien au bouddhisme qu'à la littérature française du 20e siècle.
Oui, effectivement. Tout est signe. Même un sémiotien dit « l'homme est un signe ». En fait, tout est signe. Presque tout est signe. Donc, la sémiotique, son champ d'application est très élargi. C'est pourquoi, notamment, comme je vous l'ai dit, j'ai étudié Magritte. La sémiotique, c'est une boîte à outils qui permet d'étudier Magritte. Mais la mode est un signe. La couleur des autos, c'est un signe. Les timbres sont un signe. Les manuels, les livrets d'instruction sont des signes. L'ameublement, l'architecture, tout est signe. Et donc, ces mêmes outils-là peuvent servir à étudier différents appareils sémiotiques. Et moi, j'ai étudié donc les textes littéraires, j'ai étudié les images, Magritte en particulier, et j'ai étudié l'iconographie bouddhiste jusqu'à maintenant. C'est ce que j'ai vu. Et ce que j'aime justement de la sémiotique, c'est la possibilité de passer d'un type de produit sémiotique à un autre. Donc, quand je suis tanné un peu de la littérature, je m'en vais vers Magritte. Quand je suis tanné de Magritte, je m'en vais vers le bouddhisme, etc., et d'autres sujets que la sémiotique permet d'aborder.
Parfait. Et donc, au-delà des haïkus, du bouddhisme et de la sémiotique, quelles sont les lectures qui ont été marquantes pour vous, qui vous ont forgé votre personnalité de lecteur, d'écrivain, de professeur?
Il y en a plusieurs, évidemment plusieurs. Je dirais prochain épisode. Ce que j'aime de prochain épisode, c'est la qualité du désespoir, si je pourrais dire, la profondeur de ce désespoir-là, le lyrisme, les recherches formelles, l'étrangeté du livre, j'aime beaucoup ça. Les fleurs du mal, de Charles Baudelaire, pour l'inspiration. Comme disait Rimbaud, l'inspiration, c'est un génie, Baudelaire, mais la forme est un peu mesquine, c'est-à-dire c'est une forme quand même relativement traditionnelle. Mmh. Pour la forme et pour le contenu, j'adore Rimbaud, cette espèce de liberté, cette innovation, cette fougue, ce génie créateur très condensé, cet esprit provocateur aussi. Dans les théories littéraires, j'aime beaucoup la sémantique de François Rastier. Quand je faisais mon doctorat et j'ai découvert, je me posais plein de questions sur le sens interprétation. Et là, je suis tombé sur le livre de François Rastier qui s'appelle « Sémantique interprétative », qui réfléchissait à toutes les questions et qui, lui, apportait des réponses satisfaisantes et profondes et documentées. Alors, je suis vraiment tombé en bas de ma chaise. Ça a été comme l'illumination intellectuelle, comme Saint Paul de Tarse qui est illuminé. Et j'ai dit, tiens, je m'en vais dans cette veine-là. Et c'est devenu mon maître intellectuel parce que je pense que c'est important pour un chercheur d'avoir des maîtres intellectuels, des modèles. Et François Rastier, c'est vraiment mon principal maître intellectuel. Les autres lectures qui m'ont marqué, c'est notamment, évidemment, les lectures bouddhistes. Et notamment, ce que j'aime beaucoup, c'est les vies de maîtres. Hein. C'est des récits hagiographiques. Donc, c'est des récits sacrés de leur vie, des épreuves qu'ils ont rencontrées. Ça n'a pas toujours de prétention historique. Donc, les événements sont souvent symboliques, n'ont pas nécessairement de valeur historique concernant l'histoire telle qu'on la conçoit maintenant. Et c'est intéressant parce qu'on voit quelqu'un qui chemine sur le sentier spirituel, les épreuves qu'il rencontre, les difficultés. Et c'est vraiment important de voir comment ils vont transformer ces difficultés-là en outils pour progresser sur le chemin spirituel. Et aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est les miracles. Un des sujets d'étude que j'aimerais faire, c'est comparer les miracles dans le bouddhisme tibétain et dans le catholicisme. C'est quelque chose qui m'intéresse. Par exemple, dans le bouddhisme tibétain, il y a des miracles vraiment typiques qui reviennent souvent, comme les saints, enfin les grands maîtres. Ils laissent souvent leur empreinte dans la pierre. Ça, c'est quelque chose que, sauf erreur, on ne voit pas vraiment dans le catholicisme. On a d'autres types de miracles, je ne les connais pas assez pour pouvoir en parler, mais j'imagine qu'il y a comme une typologie des miracles très différente et je trouve que c'est un sujet d'étude qui pourrait être intéressant.
En effet. Et maintenant, pour conclure, est-ce qu'il y a des lectures, disons, plus surprenantes? Est-ce qu'il y a une partie, disons, plus obscure de votre bibliothèque que vous pourriez nous dévoiler et dont on ne verrait pas l'influence dans La Sagesse du loup, par exemple?
Non, pas vraiment. Disons que je ne suis pas le genre à aller dans les dépanneurs pour acheter des livres pour quelqu'un d'autre, des revues pour quelqu'un d'autre. Donc, je n'ai pas de lecture, on pourrait dire, sulfureuse ou étonnante. Mais j'écoute, je pourrais dire, je ne sais pas si on peut mettre ça dans les lectures, mais j'écoute beaucoup de chansons populaires et rock. Pendant que je travaille, notamment, ça m'imprègne beaucoup. Par exemple, dans Sagesse du loup, il y a quelques vers qui sont inspirés directement de chansons pop, de Bachung, peut-être d'autres, je me souviens plus exactement. Et ça me marque beaucoup, et notamment quand je suis avec des gens et qu'ils me disent des mots, tout de suite, je fais des liens avec des chansons, avec ma compagne, notamment, elle me dit une phrase, et là, je vais compléter avec une chanson anglaise ou française à partir des mêmes mots. C'est comme des amorces pour moi, donc la chanson est vraiment importante. J'ai écrit des chansons, j'en écris encore, et donc ça serait peut-être les types de textes les plus étonnants par rapport à cette poésie que j'ai écrite.
D'accord, très bien. Donc, vous nous avez amené du côté de votre discothèque plutôt que d'un coup vers un aspect, disons, honteux de votre bibliothèque.
Oui, exactement.
Parce qu'il n'y a pas de livre honteux dans votre bibliothèque.
Bien sûr que non.
Bien, merci beaucoup, Louis Hébert.
Merci, Claude.
Des vents violents, les neiges horizontales. catastrophe liquide où le flocon sombre dans sa matière même. Le loup leur redit encore, « Si tout est néant, où se pose la neige ?»
Parking nomade.